Allez-y.
Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Kruger.
Sortez.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Children picked them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn?
Bonjour, George Oxley. Alors, où sont-elles passées, ces fleurs?
Bonjour Alain Kruger. Ah, ces fleurs, il faut les mettre au fusil. Mais au sens littéral, parce que il faut les prendre, ce sont des indicateurs. La terre nous parle plein de fleurs à la bouche et elles ont toujours été là pour nous nourrir au pire moment de notre vie, au pire moment de notre histoire.
Alors George Oxley, les éditions Manifesto viennent de publier La fleur au fusil, hein, qui est votre dernier livre, où l'on parle de ces plantes sauvages et de ces fleurs qui ont servi à nourrir en temps de guerre, et en particulier il y a 20 ans, à Sarajevo, quand les hommes étaient épuisés et sans réserve, ils se sont nourris avec des fleurs sans fusil.
Oui, et ça on ne le dit pas, on ne le sait pas. Parce que, en fait, les gens ne se sont pas nourris seulement avec des rations internationales humanitaires qu'on leur envoyait. Ils sont allés vers les plantes sauvages, ils sont allés voir les vieilles bonnes femmes, apprendre de ces vieilles bonnes femmes. Et on ne le dit pas parce que ça fait pas très sérieux. Ils ont eu l'impression, au début, de revenir en arrière, de revenir comme des hommes de Cro-Magnon, comme des hommes préhistoriques. Et c'est pour ça qu'ils l'ont complètement oublié. Et quand je vais à Sarajevo, les gens ne parlent pas de ça spontanément parce qu'ils ont l'impression d'avoir régressé. Ne plus être des hommes.
Régresser parce qu'on remonte à des temps très anciens. Parce que j'ai appris en lisant votre livre que à l'époque de Charlemagne, déjà, on nourrissait les hommes avec des fleurs.
À l'époque de Charlemagne, au début, on se nourrissait sur la bête. C'est-à-dire que l'armée de Charlemagne allait partout. Et au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il y avait des endroits où on pouvait vraiment pas manger. Donc, il a ordonné à son poète favori, qui s'appelait Alcuin de York, de faire en sorte que tous les monastères, les endroits d'autorité dans tout l'empire de Charlemagne puissent produire au moins 94 plantes qui soient médicinales et comestibles. Et parmi toutes ces plantes, ce sont aujourd'hui les légumes anciens, les légumes oubliés, voire les mauvaises herbes qui sont arrachées aujourd'hui des potagers et qu'on regarde vraiment comme une plaie.
Il y a de plus en plus de gens qui commencent à les regarder avec empathie et amitié. Mais si on remonte avant Charlemagne aussi, on parle de ces plantes.
Absolument. Avant Charlemagne, on peut retrouver des plantes qui sont en Inde, alors qu'elles sont méditerranéennes. En fait, quand on regarde la carte de leur dissémination, ça suit pratiquement le chemin des troupes d'Alexandre. Et par exemple, donc, il y a l'immortelle qui est cette plante qui a le goût de curry, mais c'est pas parce qu'elle a le goût de curry qu'elle est en Inde. Non, c'est parce qu'Alexandre l'a amené. Le myrte, c'est très intéressant parce que c'est une plante qui était très dans l'intimité des soldats, parce qu'elle calme les gens. Donc, quand on est en temps de guerre, vraiment martyrisé, troublé, traumatisé, on a besoin du myrte pour dormir. Et on utilisait aussi le myrte dans le bordel, parce que la rose et les myrtes, chez les Romains et les Grecs, c'était la plante qu'on offrait à Aphrodite et c'était l'indication des bordels. D'abord parce que ça sent très bon, et puis surtout parce que après on peut en utiliser pour faire de l'alcool.
Si l'on revient à l'alimentation, ces plantes nourrissantes, comment les choisit-on ?
C'est très simple. Il y a beaucoup plus de plantes nourricières que de plantes toxiques. En Europe, il y a 7000 plantes, 7000 espèces, et sur les 7000, il y en a 4000. Parmi ces 4000, il y en a 1000 qui sont absolument délicieuses, c'est-à-dire des choses sérieuses pour des gourmets. Alors, ne pas se tromper, il faut faire très attention. Il faut les apprendre, c'est tout. Mais comme on apprend ça avec l'estomac, on s'en souvient beaucoup mieux. Oui. Ça marche beaucoup mieux.
Quand on les choisit mal, on s'en souvient plus du tout aussi. Hein.
Ah, ça oui. C'est sûr.
Alors, Georges Huxley, là, nous sommes 100 ans après Verdun, 20 ans après Sarajevo. Qu'est-ce que l'on peut retrouver comme racines qui nous nourrissent aujourd'hui ?
Il y en a...
Les racines du bien.
Les racines du mal aussi, parce que il faut le bien et le mal. Non, des racines, il y en a plein. Il y a, par exemple, derrière un obus, il y a le tussilage, avec lequel on faisait à Sarajevo des petites boulettes, parce que c'est assez mucilagineux. Donc ça nourrit, ça donne du sucre, ça nourrit immédiatement. Et puis avec ça, on peut mélanger plein de choses. Donc le millepertuis qui donne un goût d'encens qui est très très agréable, parce que faut pas oublier que Sarajevo, c'est la porte entre l'islam et l'Occident. Et donc il y a ces notes orientales avec des grains de raisin aussi. Et on fait des boulettes. Ozren Kebo, dans son livre Bienvenue en Enfer, raconte, il nous donne quelques petites recettes.
Recettes de boulettes. Racontez-nous ces recettes de boulettes.
Alors, parce qu'ils font beaucoup de boulettes à Sarajevo, c'est une spécialité. Hein. Et donc là, ils faisaient des boulettes avec du tussilage et ces grains de raisin. Et en fait, comme ils n'avaient pas beaucoup, ils n'avaient pas de bois du tout à un moment, alors toute la bibliothèque y est passée. Donc ils cuisaient ça, cuisson lente, feuille à feuille. Ozren Kebo, donc, nous raconte très bien que tous ces bouquins y sont passés.
Sauf deux.
Même son enfer. Et dans son enfer, les deux qu'il gardait, donc c'était les mémoires d'Henri Miller et Naissance d'Aphrodite de Lucien Clergue. C'est les deux seuls qui ont échappé au siège de Sarajevo à 50 cuisines forcenées.
Et alors comment faisait-il ces boulettes ?
Ces boulettes, c'est très simple. Il suffit de concasser et de presser le raisin avec un petit peu d'ail des ours, ou ça dépend de la période, mais à Sarajevo, il y a aussi des orties. Mais les orties, c'était très difficile à avoir parce que les gens les reconnaissaient facilement, donc ils avaient beaucoup de succès. Il y avait aussi à Sarajevo pas mal d'herbes à la goutte et des choses comme ça. Pour relever, c'est un petit goût de carotte, c'est très sympathique. Et donc, on presse juste comme ça, et puis après, on roule...
Juste comme ça, ça veut dire entre les mains.
Oui, entre les mains. Après, on roule dans une farine de racines de pissenlit, ou alors, encore mieux, la racine de chien-dent avec laquelle on faisait, à l'époque, une farine très agréable.
Comment on confectionne cette farine
de chien-dent ? Il suffit de prendre les racines de chien-dent, les faire sécher, et puis de les hacher, et les broyer dans un mortier. Et ça se fait très vite, très facilement. Et c'est très agréable.
Vous avez goûté ?
Oui, oui, bien sûr. J'adore ça. Et d'ailleurs, j'en fais souvent dans le Sud à mes amis en leur faisant croire que c'est de la viande. Et ils se font prendre à chaque fois. Et ça marche très bien. Et en fait, c'est la nourriture traditionnelle qu'on mangeait du temps de Charlemagne, d'ailleurs, que mangeaient les moines pour le jeûne, donc les jours maigres. Mais... les plantes comestibles sont, à ce moment-là, sont vraiment délicieuses et remplacent la viande. Le kénopode, par exemple, a autant de protéines que la viande de vache. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de la viande de vache, mais on peut s'en passer. Et ça a autant de calcium que le lait.
À propos de boulettes, quand même, je voulais vous recommander un livre qui vient de sortir, qui est le livre de Lily Brett, qui avait fait Le Labensky il y a 2-3 ans, un livre qui s'appelle Chaud devant, et qui est une histoire de boulette, et qui est une histoire de boulette polonaise, parce que la boulette, c'est quand même l'un des grands points communs entre toute l'Europe et l'autre côté de la Méditerranée aussi.
Exactement. Mais vous voyez, ces plantes comestibles, c'est pas très sérieux. Et en fait, penser qu'une armée entière ait pu se nourrir de plantes sauvages comestibles est une chose absolument dingue.
Georges Huxley, je vous propose, pour accompagner ce combat des fleurs, ce Power Flower, de retrouver cette chanson de Pete Seeger qui a été immortalisée par John Baez et tant d'autres, dont le Kingston Trio.
Where have all the flowers gone? Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn?
George Oxley, comment vous êtes-vous intéressé à cette nourriture particulière en temps de guerre?
Mis à part Sarajevo, qui est quand même un cas bien à part, que j'ai découvert après, je me suis toujours passionné pour un cuisinier français qui s'appelle Alexis Soyer, qui est en fait est un cuisinier qui s'est...
Ça, c'était au 19e, hein?
Au 19e, absolument. Et qui était le cuisinier dont s'est inspiré Karen Blixen pour faire...
Le festin de Babette.
Absolument. Parce que, en fait, les recettes que Babette sort dans son fameux dîner sont toutes les recettes du café anglais dont il était le grand chef à ce moment-là. Et à ce moment-là aussi, Polignac le prend, le Premier ministre, et pendant donc la Révolution de 1830, il s'en va en Angleterre. Il crée le Reform Club, et le Reform Club, pour lui, a un but précis. Il s'occupe des cuisines, il ne s'occupe pas de la politique. C'est de prendre le maximum d'argent aux gens riches pour faire des repas pour les pauvres. Et chaque année, il a commencé par faire des repas pour 10 000, 20 000 personnes sur l'Est Square. Et en 1840-42, il y a...
La grande famine d'Irlande. Là,
la grande famine d'Irlande, absolument. Et il y va spontanément de son propre chef, avec ses propres moyens. Et il
installe... C'est-à-dire que Alexis Soyer part avec une caravane, enfin... C'est...
Il crée les choses sur place, il installe une cuisine, il crée deux cuisines, une devant Trinity College, une devant le fort de Dublin, et il organise ça de manière à ce qu'il y ait un roulement de personnes, et qu'en 8 minutes, tout le monde est mangé, et voilà. Et en 2 ans, il a servi quand même 5 millions de repas. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va manger pendant la période ?
Il ne s'en est jamais vanté.
Et jamais. Et qu'est-ce qu'on peut bien manger pendant une période de famine où il n'y a rien qui est produit ? Eh bien, des plantes comestibles, des plantes sauvages,
Alors c'était lesquelles, des algues, en l'occurrence ?
Ben, du chénopode, des algues, du lichen, de la consoude, de la grande berce. La grande berce, cette plante aphrodisiaque absolument délicieuse, qui a le goût de mandarine, qui est extraordinaire.
Vous avez quand même beaucoup d'intérêt pour les plantes aphrodisiaques.
Mais il faut, attendez, c'est très important. La grande berce particulièrement, parce que c'est une plante aphrodisiaque pour les femmes et pour les hommes. Donc c'est doublement utile.
Mais alors, quand on sert à des milliers de gens, des millions de gens de la grande berce, qu'est-ce qui se passe après ?
Ah, ben ça c'était le problème de la reine Victoria, parce que les Anglais adoraient la grande berce, les Anglais ont toujours. Ça s'appelle hogweed. Donc la reine Victoria a remarqué qu'il y avait de plus en plus de pauvreté et de gens pauvres. Donc pour diminuer la pauvreté, elle a engagé des chimistes, elle a demandé à ces chimistes de chercher les premiers herbicides. Donc les premiers herbicides ont été créés pour éradiquer la grande berce, parce que la grande berce était responsable de l'explosion de pauvres en Angleterre.
Donc pour lutter contre une démographie galopante, on a éradiqué la grande berce. Mais alors comment on reconnaît la grande berce ?
Ah, la grande berce, elle fait des ombelles, donc c'est des grandes fleurs blanches. Elle mesure à peu près 2 mètres, 2 mètres 50. Il y a une chose, c'est qu'il ne faut pas la confondre avec la berce du Caucase, qui, elle, est encore plus aphrodisiaque, mais qui rend photosensible. Et la berce du Caucase n'a pas de poils. Et la berce, la grande berce...
est poilue.
Heracleum spondylium, qui veut dire la colonne d'Hercule, est absolument poilue. Donc, c'est voilà.
Comment on la prépare, cette grande berce ?
Alors, dans la grande berce, tout se mange. Les pousses sont absolument délicieuses, en salade, toutes fraîches comme ça. Les grandes feuilles, qui sont un peu dures, on les fait en bouillon. Et les fleurs qui ont ce goût de mandarine très prononcé, par exemple, c'est utilisé en Iran pour saupoudrer les plats de Golpar, c'est le nom de la grande berce en iranien. Et donc, ce sont les plats que l'on fait pour la nuit la plus longue et aussi pour les mariages. Voilà. Et donc, on l'utilise aussi, les graines qu'on saupoudre. C'est absolument délicieux. Et on en fait des boissons, c'est très très bon.
Et à quel endroit la trouve-t-on,
la grande berce se trouve partout en lisière de forêt. Donc, un endroit très humide, là où le carbone a du mal à se décomposer. À Sarajevo, on la trouve le long de l'ancienne muraille de la ville. Et elle pousse très très bien.
Georges Huxley, si on pense à ces fleurs sauvages, elles ont inspiré aussi d'autres régimes que des régimes alimentaires, mais des régimes politiques aussi.
Eh bien, dans les années 82, Brejnev a lancé un plan de formation, non seulement de ses armées, mais un plan dans toutes les écoles soviétiques pour former les jeunes à la connaissance des plantes sauvages comestibles. Et donc c'était un espèce d'esprit de résistance, comme si l'apocalypse pouvait arriver et on était dans un état de déliquescence totale des structures étatiques et qu'il fallait se remettre dans un aspect de guérilla, dans un aspect de résistance personnelle. Et en 85-87, Castro a fait exactement la même chose et s'inspirant du modèle soviétique, il a lancé toute une étude avec le centre de botanique de Cuba, de la Havane. Comme l'ont fait les généraux birmans aussi. Les soldats birmans sont les meilleurs botanistes que je connaisse. Quand vous les lâchez, parce que c'est comme ça qu'ils sont formés, ils sont lâchés sans nourriture au milieu de la jungle. Et dans la jungle birmane, c'est assez complexe parce que c'est pas les 7000 plantes que l'on a ici. On est autour de 80 000. Il faut pas se tromper.
Mais Georges Huxley, est-ce que c'est un effet secondaire de la guerre froide si, à peu près à la même époque, on voit apparaître un travail plus chimique et plus scientifique du côté américain?
C'est très étrange. Le Roundup,
l'enfant de l'agent orange.
Voilà, qui est une espèce de continuité des recherches des différents agents blancs, agents orange, agents rouges, qui ont été développés pour la guerre de... En fait, pour la Seconde Guerre mondiale, pour remplacer la bombe atomique, en fait.
Mais qui n'ont pas été utilisés. Et puis la guerre du Vietnam. Oui.
Et puis la guerre du Vietnam. Et tout d'un coup, en 87, on invente des plantes qui peuvent résister à ça. Et donc, on lance les plantes génétiquement modifiées, parce que les plantes génétiquement modifiées jusqu'à aujourd'hui sont essentiellement pour résister aux herbicides.
Et on oublie de dire que c'est extrêmement récent, c'est un peu plus de 20 ans.
Voilà, ça a exactement, cette année, 30 ans. C'est un triste anniversaire. Ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est que pour modifier ces plantes, et pour qu'elles résistent au Roundup, on leur a donné des gènes. Et pour leur transmettre ces gènes, on a utilisé un vecteur qui est le premier virus jamais trouvé, qui s'appelle le virus de la mosaïque, qui est le virus qui a fondé, que a trouvé Martin Beijerinck, un Belge, en 1903, et qui a fondé la virologie avec ça. Et pour que ce virus puisse rentrer, parce que c'est la mosaïque spécifiquement du chou-fleur, et pour que la mosaïque du chou-fleur puisse rentrer dans un brin de soja ou un brin de maïs, on l'a modifié pour qu'il puisse être furtif à tout système immunitaire des plantes. C'est terrible, parce que c'est un virus qui maintenant peut rentrer dans toutes les plantes.
Et ça correspond aussi à la prohibition des plantes sauvages.
Absolument. Je dirais même plus, pas à la prohibition, à l'éradication totale, puisque le Roundup est un herbicide total.
Mais ces mauvaises herbes, entre guillemets, qui sont au pied des vignes, au pied des arbres, vous battez pour qu'on les sauvegarde et qu'on ne les éradique pas.
Absolument, parce que, en fait, chaque herbe qui pousse a un rôle à faire, et son rôle est de remettre l'équilibre dans le sol. Et donc, au contraire, c'est le produit d'une ignorance de l'homme qui ne connaît pas le rôle, qui n'a pas appris, qui n'a pas essayé de rechercher, qui ne s'est pas intéressé au rôle que peut avoir une herbe sur le sol. Donc c'est une méconnaissance, c'est un déni du sol, qui est une chose quand même qui est née avec le 19e siècle, et moi je dirais même plus, qui est née avec l'approche absolument de Pasteur, qui se lavait les mains, qui ne supportait pas les choses qui venaient de la terre, qui a inventé quelque chose qui s'appelle la pasteurisation, et en fait c'est pas du tout lui qui l'a inventé, parce qu'on dit que Pasteur a fait des grandes inventions, mais en fait il a repris tout ce que les Italiens Bassi et Spallanzani ont inventé un siècle avant. Et en fait, la pasteurisation, il l'a brevetée pour pasteuriser le vin. Alors que on ne pasteurise pas le vin. Quelle idée de pasteuriser quelque chose de vivant ? Pasteuriser, c'est éradiquer tout. Donc, c'est-à-dire transformer un vin en quelque chose de mort.
Le vivant en mort, oui.
Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben?
George Huxley, ce que vous n'avez pas dit tout à l'heure, c'est que Alexis Soyer a inventé la ration du soldat, à sa façon.
Absolument. À sa façon, il a repris un petit peu ce que Charlemagne avait fait avec le capitulaire de Willis. Après l'Irlande, la famine d'Irlande, il est allé spontanément aider les armées, donc ça veut dire la coalition française-anglaise, qui s'est retrouvée pris dans la guerre de Crimée sans aucune nourriture. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a organisé, donc c'est lui qui est allé se joindre à Florence Nightingale, et c'est lui qui a créé toutes les cuisines de campagne, et surtout, il a appris aux gens à cueillir les plantes sauvages. Il y a une autre femme très importante qu'on oublie toujours dans l'histoire, c'est Mary Seacole. Et c'est la première infirmière noire qui est contemporaine, qui est allée elle-même proposer ses services à Florence Nightingale, qui l'a absolument refusé parce qu'elle utilisait des plantes et des remèdes de vieilles bonnes femmes. Et puis, elle était noire. Et Mary Seacole a monté en plein champ, à côté de Scutari, en plein champ de bataille, le mess des officiers, qu'elle a appelé l'hôtel d'Angleterre, où le champagne coulait à flot. Pourquoi le champagne coulait à flot ? Elle prenait l'argent des officiers et elle finançait tous les soins pour les soldats dont personne n'avait rien à faire.
Là, on est en quelle année ?
Toujours 1850, donc c'est la guerre de Crimée. Et en fait, Soyer, ça a été très difficile parce que pour nourrir toute une armée, il en faut des plantes sauvages. Et ça met quand même un certain temps avant qu'une plante se mette à pousser. Hein. Il faut au moins 10 jours. Et donc Soyer, il a pensé à créer cette ration du soldat. Donc qui est la ration qui a servi aux gens de Sarajevo, soi-disant, pour survivre. Une espèce de vision de la cuisine nutritionnelle. Et ça, c'est vraiment Soyer qui l'a apporté.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ces premières rations de soldats d'Alexis Soyer ?
Alors, essentiellement, les premières boîtes, parce qu'il faut dire que Soyer est aussi l'inventeur de ce qui s'appelle la fruit sauce en Angleterre. Donc, Cross & Blackwell, la marque, a commencé son existence avec ça. Donc, c'est la généralisation, en fait, de tout ce qu'on appelle un peu le système à pair. Donc, c'est les boîtes de conserve, le corned beef, ça n'a pas bouger, les biscottes sèches, le fromage déshydraté. Et ce qui est très drôle, c'est que, enfin, très drôle et très triste, c'est que toute cette éducation que Soyer a donnée à ses soldats sur place pour se sauver leur peau, en fait, se nourrir. Même dans son livre qui s'appelle Culinary Campaign, donc qui est le premier bouquin, l'ancêtre de Ma fleur au fusil, quelque part, parce que c'est un cuisinier qui raconte sa campagne culinaire, qui est quand même incroyable, en guerre de Crimée. Eh bien, il ne parle pas une seule fois des plantes sauvages comestibles. Parce
c'est,
que
c'est tabou,
c'est complètement tabou. Vous pouvez pas avoir la première armée du monde, toutes les armées européennes coalisées qui dépendent de plantes sauvages comestibles.
Le fait aujourd'hui que des gros groupes industriels de l'agro-industrie, de l'agrochimie aient réussi à obtenir l'interdiction de ces plantes-là, ça débouche sur quoi aujourd'hui ?
Ça débouche sur une espèce de carence de la biodiversité qui est très préoccupante. Parce que c'est dans cette biodiversité que l'on trouve les ressources pour notre santé. Et il y a des choses qui sont très préoccupantes. Avec Gérard Dusserf, botaniste, célèbre botaniste français, nous faisons des relevés botaniques, et Gérard depuis les années 80. Dans les alpages, nous avions, et même dans les parcs nationaux, nous avions 300 à 350 plantes par parcelle. Et dans ces mêmes parcelles, aujourd'hui, on arrive dans les meilleures parcelles, on arrive à 50 plantes, et une parcelle moyenne, on y est à 14. Le pire, c'était alors, 5.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça ? Résister à l'envahisseur ?
Alors, résister à l'envahisseur, non. Avoir des meilleures pratiques. Sensibiliser les paysans, sensibiliser les gens qui s'occupent de la nature, qui s'occupent des petites bêtes, des petits oiseaux et tout ça, et qui oublient trop souvent les plantes sauvages. Alors que les plantes sauvages, c'est elles qui donnent le pollen aux abeilles. Si les abeilles disparaissent, c'est pas uniquement parce que il y a des pesticides, il y a des produits chimiques qu'on lâche partout. C'est aussi par nos pratiques, les ruches carrées qui sont une horreur, qui est une espèce de l'industrialisation des ruches, mais aussi du manque de diversité, et pas uniquement de planches sauvages, mais aussi de champignons, parce que l'un va avec l'autre. Il y a en France une chose qui s'est passée dans les 60 dernières années, qui est assez dramatique pour moi, qui est la perte totale des vieux arbres, et donc qui dit perte totale des vieux arbres, dit perte totale des champignons qui vivaient avec ces vieux arbres, et qui sont des ressources de biodiversité et des ressources de médicaments pour les problèmes de santé que nous avons, qui sont nos problèmes liés à cette modernité sans biodiversité, et qui nous font bien défaut. Et donc, avec un ami aux États-Unis, on a fait un espèce de petit produit comme ça, pour les abeilles, pour nourrir les abeilles, à base de Fomes fomentarius, donc ce vieux champignon qui vivait sur les vieux arbres, qui était le champignon des chamans des anciennes tribus européennes et qui aujourd'hui a totalement disparu et qu'on ne retrouve plus que dans les forêts d'Olympia, dans l'état de Washington aux États-Unis.
Merci George Oxley. Je recommande La fleur au fusil aux éditions Manifesto. Avant de se quitter, on va décueillir quelques fleurs avec Jimmy Somerville.
Where have all the graveyards gone? Long time passing. Where have all the graveyards gone? Long time ago. Where have all the graveyards gone? Covered with flowers, everyone. When will we ever learn? When will we ever learn? When will we ever?
Attention, hein. 3, 4. Plié, tendu, la jambe et hop.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Dominique Compétissa, la prise de son est de Monsieur Philippe Palares et la mise en onde, bien sûr, d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission maintenant quasiment éternellement, enfin, on est là pour l'écouter, et la podcaster pendant un an. Et dans quelques instants, le journal sur France Culture.